Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Bon, t'as vu, je t'ai envoyé un grand sourire, tu me vois quand même.
Ah oui, tout à bon. Fait, je le vois le
sourire. Et toi alors, j'attends ton sourire de soleil là quand même. Ah, très beau aussi. Bon, bonjour Damien, bonjour mes chéris, merci de nous recevoir chez vous. On est toujours tellement contents de vous retrouver. Ah ben oui, après bon, on peut pleurer, on peut être triste une fois qu'on vous a quitté, mais dès qu'on est avec vous, tout va bien, tout va mieux. Et oui, le pire c'est que c'est vrai.
Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, on vient vous parler cinéma et là, vous présenter les films qui sortent dans les salles obscures, mais également vous parler des actualités, notamment des prix. Et la semaine dernière, c'était les Césars, donc c'est les prix du cinéma français.
Oui, les Césars.
Et donc, Anne, tu vas nous présenter
les gagnants. On va appeler ça les gagnants.
Les différentes catégories.
Voilà, c'est les Césars 2022, ben oui. Donc, écoute, on va essayer de faire ça clairement et ne pas trop prendre sur notre temps, sur nos films qui... Oh, bah moi, il me tarde de vous parler des films, surtout. Hein. Mais là, quand même, c'est bon, hein, on va le faire. Alors, Illusion perdue, on en avait parlé ici. Et de toute façon, je suis très contente parce que tous les films qui ont été gratifiés, on en a parlé ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers.
Illusion perdue était un des grands favoris.
Tout
avec
à fait.
Un nombre de nominations incroyables.
Tout à fait.
Et ça a répondu à la demande.
Eh ben oui, parce que c'est le grand gagnant de la soirée. Mais alors... Le film Bac Nord, on en avait parlé aussi, qui est un film magnifique, hein, ben il est reparti sans aucune récompense. Ça, moi, ça m'a un peu chagrinée, je dois dire. Alors, bon, j'ai lu quand même certains articles hein, après cette soirée. Alors, on nous dit quand même une cérémonie qui ne restera pas dans les annales. Ben oui, parce que, bon, c'était la 47e édition, donc, un vendredi soir. Et présenté donc à Antoine Decaune, enfin lui, ce n'est pas la première fois. Hein. Il était maître de cérémonie. D'ailleurs, c'était la 10e fois, si je ne m'abuse. Et voilà, donc côté audience, le pari a été raté, c'est ce que j'ai lu, puisque cette édition a de nouveau signé un score au plus bas depuis plus de 10 ans, en étant suivi par seulement 1,32 million de téléspectateurs, soit 8,5% du public. Ça, c'est Médiamétrie qui le dit. C'est vrai que ce n'est pas énorme, hein. C'est même rien du tout, quoi. C'est minuscule, minuscule. Voilà, bon, là, ça commençait pas bien du tout. Alors, côté ambiance, ils nous disent aussi quoi, que loin d'avoir été aussi mouvementé qu'en 2021, effectivement, cette cérémonie n'a pas réservé beaucoup de surprises. Alors, il y a José Garcia, par exemple, qui a finalement provoqué, comme promis, avec le sourire, son complice Antoine Decaune, ou encore avec l'humoriste Marie Saint-Filtre, qui a jugé pertinent de montrer son postérieur aux personnalités du 7e art réunies à l'Olympia. Voilà. Donc, c'est pas non plus... Difficile de penser à autre chose qu'à l'Ukraine. Voilà ce qu'écrivent les journalistes hein, après cette soirée. Dans un registre plus sérieux, justement, la guerre en Ukraine était présente dans tous les esprits. Donc, il y a eu des allusions, mais enfin, pas suffisamment, moi, je trouve. Hein. J'ai regardé la soirée, tu vois, Damien, j'ai été quand même très étonnée que l'Ukraine ne soit citée pratiquement qu'une seule fois par une actrice. Et bon. Alors, par contre, il y a eu énormément d'émotions avec les hommages hein, rendus à Jean-Paul Belmondo et Gaspard Ulliel, et évidemment. Bon. Ça, on s'y attendait, hein, absolument. Un jeune artiste qui décède à 37 ans et qui était quand même excellent, un excellent acteur. Bon, c'est normal qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup d'émotions à ce moment-là. Alors, on passe au César. Tu veux bien qu'on passe au César ?
Mais oui, je veux bien. Dis-nous tout.
César du meilleur film. Alors, le gagnant, Illusion perdue, réalisé par Xavier Giannoli. Oui, ah, bah oui, c'est un grand réalisateur. Oh là, il était heureux comme tout. Mais oui, parce que c'est quand même un tremplin un peu, le César, hein, pour un réalisateur. Ça permet après de donner confiance au producteur. Et donc, c'est quand même utile dans ces cas-là. Alors, donc le gagnant, c'était lui. On l'a dit vite fait, il y avait Aline, Annette, Bacnor, etc. Hein, mais c'est Illusion perdue. Ensuite, la meilleure actrice. Ah, ben oui, ça, c'est agréable. La gagnante, c'est Valérie Lemercier, dans Aline. Alors, on sait qu'Aline, hein, pardon, son film Aline parle donc de la chanteuse qu'elle adore.
Céline Dion.
Céline Dion, la chanteuse canadienne qu'elle adore. Et donc elle a eu ce prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Aline, puisqu'elle joue le rôle justement de la chanteuse. Ensuite, le meilleur acteur, le gagnant, c'est Benoît Magimel dans le film De son vivant. On en avait parlé ici aussi. C'est hein, l'histoire de ce jeune homme qui est malade, qui va mourir, et voilà, c'est tout un. Effectivement, il était quand même assez impérial dans ce rôle. C'est vrai que là, je pense qu'il n'a pas volé son titre, là, hein. Enfin, sa statue, en tout cas. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Aïssa. Non, pardon. Oui, ben si, Aïssa, ben oui, Aïssatou, Diallo, Sagna, dans La Fracture, le film La Fracture. Aïssatou, Diallo, Sagna, c'est pareil, c'est une grande comédienne. Hein. Elle méritait absolument ce prix. Pour un second rôle. Meilleur acteur dans un second rôle, le gagnant, c'est Vincent Lacoste, dans, justement, Illusion perdue. On a le meilleur espoir féminin, la gagnante, c'est Anna Maria, pardon, Vartolomei, dans le film L'Événement. On la connaît pas, on connaît pas bien son nom, mais quand on la voit, on la reconnaît. On sait qu'on l'a déjà vue. Et que c'est un espoir vraiment un prix bien tout à fait mérité à mon avis. Hein. Meilleur espoir masculin, le gagnant c'est Benjamin Voisin dans Illusion perdue. Eh ben oui. Et la meilleure réalisation, alors pour le gagnant, bah, c'est Léo Carax pour son film Annette, dont on a déjà énormément parlé ici à l'antenne hein, des radios Entre deux mers. Effectivement, bon. Alors, le meilleur film d'animation, j'ai voulu quand même le noter parce que moi, j'adore parler des films d'animation, surtout quand il s'agit de films pour enfants. Il n'y en a pas tant que ça, beaucoup moins qu'on imagine. Et des très bons, il n'y en a pas non plus énormément. On trouve toujours quelque chose de sympa, mais des très, très bons, des excellents, il n'y en a pas tant que ça. Et le gagnant, c'est Le Sommet des Dieux, réalisé par Patrick Imbert. On en avait parlé ici. Eh ben oui, Le Sommet des Dieux. Et j'ai regretté un petit peu parce qu'effectivement, Le Sommet des Dieux, c'est magnifique. Mais il y avait même Les Souris vont au paradis. Je ne sais pas si tu te souviens du titre, on en avait parlé. Le Sommet des Dieux, bon, d'accord. Et La Traversée aussi, qui est très, très jolie. En tout cas, c'est Le Sommet des Dieux qui a gagné. Meilleur film documentaire, puisqu'ici aussi, on parle de films documentaires, c'est La Panthère des Neiges. Tu te souviens, comme j'étais emballée. Le jour où on en a parlé, comme j'étais emballée par ce film, absolument, c'était Marie Amiguet, Vincent Munier, c'était une co-réalisation. Ils s'étaient donné la main pour réaliser ce magnifique documentaire. Voilà, bah oui, La Panthère des Neiges. Moi, je ne suis pas surprise quand même, j'avais trouvé que c'était magnifique, de toute façon. Alors, le meilleur premier film, le gagnant, c'est Les Magnétiques, réalisé par Vincent Maël Cardona. Et voilà. Bon, moi, je pense qu'il le méritait. Ça valait le coup. Alors, on va finir avec le meilleur film étranger. Le gagnant, on est content quand même, parce qu'effectivement, on en a parlé beaucoup, The Father.
De Florian Zeller.
Voilà, et c'est lui, donc, qui a le César du meilleur film étranger.
Qui est francophone.
Oui,
Il est français ou suisse ?
Non, mais il a les deux, je crois.
Ah, oui.
Il a les deux, oui, ouais. Il a les deux nationalités. Oui. C'est pour ça que c'est le meilleur film. Et puis, meilleur scénario, pour terminer quand même, parce que scénario, c'est important. Ah ben non, il y a l'adaptation. Alors, le scénario, c'est Arthur Harari et Vincent Poimiro pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. On avait parlé aussi de ce film, qui est assez extraordinaire. C'est un film qui est étonnant, et on ne voit pas souvent ce genre de film, d'ailleurs. Ouais, Onoda, 10 000. Et puis, la meilleure adaptation, ben, c'est Xavier Giannoli et Jacques Fieschi, qui ont gagné le César pour Illusion perdue. Encore. Voilà. Ben, je crois que Illusion perdue, c'est 10 prix, je crois, en même temps. Hein. C'est 10 Césars pour le même film. Voilà, voilà le palmarès. Sympathique quand même, même si la soirée n'a pas été extraordinaire. Et puis, je pense qu'effectivement, les gens ne se sont pas précipités parce qu'en ce moment, on sort à peine du Covid. Enfin, on n'en est pas sorti d'ailleurs. Enfin, on l'a toujours là comme ça. On a vécu des moments très durs. Des gens ont vécu des choses terribles. Et puis, l'Ukraine. Et je pense que ça faisait deux raisons peut-être de ne pas se précipiter pour regarder au fond une soirée, bon, qui n'est pas si importante que ça si on a l'habitude d'aller au cinéma. Ce qu'on aime, c'est aller voir des films après tout. Bon, le reste, les récompenses, ça peut intéresser quand tout va bien. Mais là, je comprends pourquoi les spectateurs, il y a eu très peu de spectateurs, je les comprends parfaitement. Ça ne les empêchera pas, je pense, d'aller au cinéma pour se détendre, pour se changer les idées, pour respirer un peu. De toute façon, voilà.
Voilà pour les Césars. Et donc maintenant, nous allons retrouver les films qui sortent cette semaine.
Oui.
Et nous allons débuter tout de suite avec une bande-annonce. Et on vous parle de ce film juste après.
Oui, merci.
Tête de con. Ça, c'est l'adresse pour demain.
Ok, je m'habille comment ?
Oh, habille-toi comme tu veux, ils s'en foutent.
Moi, je vais pas mettre ça, là. J'ai l'air d'une grosse vache.
Mais non, vous êtes très élégant.
Mais vous êtes sûr de la couleur de la veste, là ?
Je te préviens, il est un peu relou ces derniers temps. Tout va passer par toi. C'est toi la responsable.
Mais c'est quoi ton truc, là ? C'est du babysitting ou pas ?
Ah, c'est un peu plus que de la sécu, mais tu verras, ça a son charme.
Rentre, mon vieux, tu vas pas rester dehors.
Mon vieux.
Ah oui. Vous arrêtez pas au feu orange ? Non, je vous aime pas qu'on s'arrête à l'orange. Ben, t'en fous.
D'accord.
Après, je dis quoi ?
Je ne puis renoncer à vous aimer.
Quel texte de merde, hein ? Et personne ne vous oblige à rester, hein ?
Personne m'oblige, mais moi, j'aime faire mon travail. Le faire bien.
Moi, non. Moi, j'aime faire chier, moi. When the
green woods love, non, mais il est seul, en vrai. Son mec seul.
Un amour, ça se mérite.
Ouh, vous savez ce que c'est, l'amour ?
J'en ai marre de faire le guignol.
Sans renoncer à mon amour, je renoncerai à mes témérités.
Vous voulez pas tourner à ma place ?
Alors, il y a quelques jours de ça, on a entendu Gérard Depardieu dans Maison de retraite.
Oui.
Et puis là, on le retrouve dans le film Robuste. Donc, Robuste, avec également Déborah Lukumuena.
Ce sont et Maigret, les... Maigret.
Et oui, et Maigret aussi. Donc, voilà, il tourne là, je dirais. On le voit en ce moment. Et
crois-tu
donc, aujourd'hui, c'est Robuste. Donc, oui, un film de Constance Meyer avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena,
oui.
Notamment.
Oui, oui. Alors, Robuste. Oui, oh, ben oui, j'ai oublié de dire, au fait, pour les Césars, que c'était Cate Blanchett qui a eu le César d'honneur, au fait. L'actrice Cate Blanchett.
Oui, tu nous l'as dit.
Je l'avais dit.
Oui, oui,
je crois que je ne l'avais pas dit.
Tu nous l'as dit quand tu nous as parlé d'elle et de son mot pour l'Ukraine. Et voilà.
Ah, d'accord. Mais je crois que c'était hors... d'accord. Ah, ben, c'est elle, oui, qui a prononcé le mot Ukraine. Alors, oh oui, Robuste, ben, finalement, on est quand même assez content que notre Gérard Depardieu national reprenne un peu le cinéma en France, hein, quand même, ça fait plaisir. Alors, Constance Meyer, oui, tu l'as dit, réalisatrice, scénariste, productrice. Elle est écrivaine également, elle est française, elle a 53 ans. Et elle a réalisé des courts-métrages et c'est son premier long-métrage. Elle a 9 ans de carrière et 5 tournages, donc. Je compte les courts-métrages dans ces tournages. Robuste, alors comédie dramatique, ça dure 1h35. Bon, bah, c'est une comédie française et belge. Il y a 2 nominations. Il y en a une au Festival de Cannes 2021, Caméra d'Or. Et puis, il y en a une aussi à la Semaine internationale de la critique en film d'ouverture. Robuste. Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s'absenter pendant plusieurs semaines, oui, pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l'acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer. Alors, Georges Depardieu, bah oui. Cinématographiquement en grande forme, mais il semblerait qu'il a eu, il y a pas très longtemps là, je crois qu'il a eu des problèmes de santé. Je crois qu'il a eu un petit, il a eu un malaise, il a fait un petit coma. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Hein. Bon, j'ai pas de certitude, mais il me semble qu'il a eu un petit souci après là. Enfin, il y a pas très longtemps. Espérons que non. Hein. En tout cas, c'est lui, Georges. Eh ben oui. La star du cinéma vieillissante. Et puis on a Déborah, ben tu l'as dit, hein, Lucu Ménard, formidable, formidable actrice. On a Lucas Mortier, on a Megan Northam aussi, dans les rôles principaux. Ah ben oui. Alors la cinéaste nous dit qu'elle avait en tête l'image d'un homme robuste, évanoui dans les bras d'une femme qui le porte, qui le sauve, comme une scène galante inversée. Et oui, d'habitude, c'est le monsieur qui sauve la dame et qui la prend dans ses bras. Alors, c'est cette micro-situation, nous dit-elle, l'abandon d'un homme dans les bras d'une femme, qui est à l'origine du film. Alors, ensuite, il fallait détricoter cette image pour en faire une histoire. Voilà ce qu'elle nous dit. Oh, déjà, ça nous donne envie, là, quand même. Hein. Alors, elle parle de Gérard Depardieu. Elle dit qu'elle le connaissait, elle l'avait rencontré avant dans le milieu du théâtre. Et donc, évidemment, elle avait envie de la voir dans son film. On la comprend absolument, bien sûr. Quel est le réalisateur qui n'a pas envie d'avoir un Depardieu dans un film ? Quand même. Le film est essentiellement tourné en intérieur. Ça, c'est important quand même. Elle nous dit qu'elle avait besoin d'un chef opérateur qui sache créer une atmosphère un peu en suspense. Quelque chose d'onirique, un léger décollement de la réalité. C'est ça le... Et c'est le Simon Beaufils, c'est lui le directeur de la photographie. Il a très bien compris cette dimension et il m'a beaucoup apporté sur le plan artistique. Voilà ce qu'elle dit, ben ça va. Elle est reconnaissante pour son directeur de la photographie, c'est pas souvent. Alors, ben, c'est bien, c'est gentil. En tout cas, le point commun entre les deux personnages et les acteurs principaux réside dans leur corpulence. Une caractéristique cachant des fragilités que la réalisatrice a voulu développer. Elle avait envie de montrer la grâce qui se dégage de leur corps, mais ce qui l'intéressait surtout, c'était de révéler la fragilité derrière la corpulence. Elle dit que les contradictions l'intéressent et que c'est beau de voir cet homme qui semble avoir vécu 150 vies, de voir cette femme qui semble si combative, qui fait de la lutte et qui réalise qu'à l'intérieur de ces deux êtres se joue autre chose. Tout autre chose. Alors, le décor, ben, c'est une maison hein, qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Et il y avait des vitres partout et un salon en demi-cercle qu'on voit dans le film. Ce décor a été déterminant, nous dit la réalisatrice. Ça me fait penser, cette histoire de corpulence et de fragilité et de grâce, ça me fait penser un jour, ma maman m'avait dit, je me souviens, elle était allée dans une soirée avec mon père et elle avait été invitée par un monsieur, à danser par un monsieur assez corpulent. Et elle m'avait dit, il avait une légèreté, il dansait, c'était extraordinaire, la grâce qu'avait cet homme-là. Ça m'était resté, ça, je m'étais dit. Et après, chaque fois que je voyais quelqu'un comme ça, un petit peu, je me disais, mais alors, ça veut rien dire, ça, quoi. Parce que, et si elle me l'avait dit, c'est que c'était certainement vrai. Elle n'avait pas l'habitude de dire n'importe quoi. Et ça m'intéressait, cette histoire. Donc, ça corrobore effectivement ce que nous dit la réalisatrice de Robuste. Hein, la fragilité, la légèreté, la grâce de ces personnages hein, robustes. À voir, vraiment, à voir. Hein.
À retrouver donc Robuste. Et maintenant, c'est Kenneth Branagh que l'on retrouve après Mort sur le Nil. Il nous revient avec le film Belfast.
Oui, ah ben, on l'adore quand même, hein, parce que c'est un grand comédien, un grand acteur. Comédien parce qu'il fait aussi du théâtre. Grand acteur, grand réalisateur. C'est quelqu'un de formidable quand même, il n'y a rien à dire. Kenneth Branagh, c'est réalisateur, scénariste, producteur, acteur. Il est britannique. Il a 61 ans, 3 prix, 30 nominations, 40 ans de carrière, 66 tournages, il y a 20 longs-métrages quand même, et puis il y a dont 20 longs-métrages, et le reste, c'est des tournages comme acteur, bien sûr. Hein. Et, ah bah oui, il a beaucoup tourné, lui. Alors, c'est un drame, hein, c'est un drame britannique, et alors ça, c'est à souligner, c'est un film en noir et blanc. Il dure 1h39. Il a un prix et 18 nominations au Golden Globes 2022 de Los Angeles. Meilleur scénario pour le réalisateur. Et alors là, on se retrouve en été. C'est l'été 1969. Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient. Celui de la classe ouvrière, des quartiers nord de Belfast, où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d'août se fait encore sentir, la grogne, les rêves d'enfant, pardon, de Buddy virent au cauchemar. Il y a une grogne, c'est ce que je voulais dire, sociale, latente, qui se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l'hystérie, un nouveau paysage urbain, fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et de méchants. Alors, on a dans le rôle de la maman de Buddy, c'est Kate Triona Balf. Ils sont tous irlandais, les acteurs. Hein. Le papa, il est connu, lui. On reconnaît bien son visage, c'est Jamie Dornan. On a dans le rôle de Buddy, on a Jude Hill. Alors, il est tout mignon. Un petit Irlandais. Maintenant, il a 11 ans, là, donc il devait avoir 9 ou 10 ou 11 ans au moment du tournage. Il est absolument adorable. On a la grand-mère aussi, c'est Judy Dench. Ah non, elle, ce n'est pas une Irlandaise. Granny, c'est une actrice britannique. On a un autre Irlandais qui est connu, lui aussi, Ciaran Innes, qui joue le papy de Buddy. Mais elle aussi, Judy Dench, la granny là, qui joue la grand-mère, elle est très connue aussi. Et donc, c'est une histoire terrible quand même. Hein. C'est l'île d'Irlande qui est partagée. Elle a été partagée en 1921. Et il y a 6 des 9 comtés de la province d'Ulster qui forment l'Irlande du Nord. Alors, bon, c'est pour un peu expliquer ce qui va se passer, en fait. Hein. Alors, au sein du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, c'est ça, hein, les 9 comtés. Et le reste devient l'État libre d'Irlande, puis la République d'Irlande, ou l'ère d'Irlande, comme on dit, en 1949. Ça avait commencé en 1921. Et en 1967, l'Irlande du Nord connaît d'importants troubles politiques et civils motivés par un désir d'égalité des droits pour la minorité catholique qui subit encore des discriminations, notamment en termes d'emploi et de logement. Et puis en août 1969, la violence s'empare de Belfast, qui est la capitale hein, de l'Irlande. De nombreuses familles de la classe ouvrière quittent volontairement ou sous la contrainte leur maison, alors que s'opère la plus brutale division de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nord de Belfast a été le plus frappé et le plus meurtri du pays, et ce, surtout chez les civils. D'ailleurs, le réalisateur décrit Belfast comme son film le plus personnel. Il lui a fallu 50 ans pour trouver comment raconter son enfance et la période tumultueuse qui traversait Belfast à cette époque. Il y a pensé pendant 50 ans quand même. Bah ouais. En fait, il qualifie son film d'autofiction. parce qu'il a puisé dans sa vie, tout en romançant, bien sûr. Il dit qu'il raconte l'histoire à travers le regard d'un petit garçon qui s'appelle Buddy et qui est une version filmique de moi-même, dit-il. Il va, voilà, les expériences qu'il vit, que Buddy vit, tout ce qui va se passer, ben, c'est ce qu'il a connu. Et encore, ce n'est qu'approximatif par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'il a vécu, lui, enfant. Là, vraiment, y a pas, tout n'y est pas. C'est la réalité, en fait, tout ce qu'on peut vivre dans ces cas-là quand on est un enfant et que tout d'un coup, la violence déferle autour de nous alors qu'on était dans une famille choyée, aimée, tranquille. Belfast.
Belfast, donc, à retrouver dès aujourd'hui au cinéma. Et maintenant, ça va être un film français avec notamment Adèle Exarchopoulos.
Oui.
C'est un film d'Emmanuel Mar qui s'appelle « Rien à foutre ».
Oui, mais dis donc, comment tu me parles ce matin, Damien?
Mais c'est pas moi. Vas-y, on écoute la bande-annonce.
Merci.
Your daughter for today is fine. You're a passenger.
Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir en G.
Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés.
Non, papa, tu vas probablement pas comprendre, non, en fait.
Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire?
How long did you have working?
I have to watch on my Instagram.
They're beautiful, like they're on their picture. I could be dressed like nothing for working in their condition.
They're going everywhere.
Where are we going?
Les gens, bah, je les aime pendant 2 heures et puis après, salut.
Can you stay with me? Please. Just 5 minutes.
You're asking me to be not fair just to reach out your objective.
What I want you to do is your job.
Voilà, rien à foutre, c'est bilingue parce qu'on parle du milieu des hôtesses de l'air,
voilà,
et que
voilà.
Le langage universel est l'anglais. Donc il y a des moments en français, des moments en anglais, mais c'est de l'anglais que l'on peut comprendre, mine de rien.
Oui.
Avec une Adèle Exarchopoulos toujours au top.
Ah oui, extraordinaire, vraiment. Rien que pour elle, il faut voir ce film, Rien à foutre, 1h52, comédie dramatique, qui a eu un prix et 3 nominations, le prix de la Fondation Gann à la diffusion à la Semaine internationale de la critique 2021 et une nomination Caméra d'or au Festival de Cannes 2021. Alors Emmanuel Marais, oui, un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, il est français, il a 42 ans, et il a travaillé sur ce film avec Julie Lecoustre, qui est une scénariste réalisatrice avec qui il a l'habitude de travailler. Il a 13 ans de carrière, il a 9 tournages à son actif. Et il a eu, pour un court-métrage qui s'appelait « Le film de l'été », il a reçu le prix Jean Vigo, qui est un très beau prix. Et voilà, bah, tant mieux, c'était mérité, c'est mérité. Il fait du beau cinéma, cet homme-là. Alors, c'est l'histoire de Cassandre. Cassandre a 26 ans, elle est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain. Fidèle à son pseudo Tinder, Carpe Diem, profitez du moment présent. Ce que je vous dis parfois, mes chéris, mais pas parce qu'on se fout de tout. Carpe Diem, c'est pour juste profiter de la journée un maximum quand on est entouré de gros problèmes, comme on vit quand même depuis pas mal de temps, là. C'est ça, c'est pour ça. Quand je le dis, c'est pas dans le sens, rien à foutre, hein. Du tout. Mais là, oui, elle, c'est autre chose. Une existence, elle a une existence sans attache, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie low cost, donc la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfuies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol? Alors Adèle Exarchopoulos est extra, mais c'est vrai qu'elle est extraordinaire, plus vraie que vraie. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à cette Cassandre qui vit comme ça. Enfin, faut pas trop en dire, faut aller voir le film. On a également Alexandre Perrier, on a Marat Takin, on a un acteur canadien, Jonathan Soudon, qui tourne pas mal en France quand même. Et donc, c'est titré, ça a été très, très bien reçu, c'est titré « Une immersion totale dans le monde des travailleurs du ciel, un portrait sensible de la jeunesse contemporaine. Adèle Exarchopoulos, troublante d'authenticité, du social et de l'émotion à bord, décalé, drôle, frais, un film d'une grande humanité. » Alors, comment ça a quand même été reçu ? Et là, c'est vrai que là, bon, ils avaient déjà travaillé ensemble, Emmanuel Marais et Julie Lecoustre. Ça avait bien marché, c'est ce que j'ai dit, hein, qu'ils avaient l'habitude. Et donc là, ils s'y sont remis et ils ont bien fait de travailler tous les deux. Alors, Rien à foutre, en fait, est né d'une double image. Alors, la première, c'est lorsque le réalisateur s'est retrouvé sur un vol Ryanair au premier rang, juste en face de l'hôtesse. Alors, au décollage, le metteur en scène a remarqué qu'elle allait très mal. Il se rappelle, et puis, il y a eu le ding. Et elle a décroché sa ceinture et là, elle a arboré un immense sourire. C'était, et oui, ça lui était resté ça. Et puis, elle a commencé à sortir le chariot des boissons, à proposer des trucs à vendre, etc. Et du coup, il nous dit qu'effectivement, entre ces deux images, il y a un tel écart entre ces deux images, entre la jeune femme assise, pas trop, qui ne va pas très bien, et qui tout d'un coup, au moment où ding, elle entend le ding, elle se lève, elle sourit, elle fait son travail. Donc ça l'avait beaucoup intriguée, et en même temps, ça l'avait marquée. Et du coup, il nous dit d'ailleurs, il se posait une question. Mais qu'est-ce qu'elle a laissé au sol, cette jeune femme, avant de s'envoler ? Et plus tard, après, il nous dit qu'il a repensé à cette scène et à un tableau aussi, l'ouvreuse, un tableau de Hopper, qui s'appelle l'ouvreuse, et j'ai eu envie de déplier cette double image. Alors voilà, effectivement, le rôle de Cassandre, au départ, c'est curieux, parce que le réalisateur voulait donner ce rôle à une véritable hôtesse. Bon, voilà, il avait pensé qu'il prendrait une véritable hôtesse. Mais il avait quand même Adèle dans un coin de la tête, nous dit-il, et quand on s'est décidé à la rencontrer, on a senti dès le premier rendez-vous que quelque chose résonnait en elle. En tout cas, une évidence, quoi, en fait, hein. Du coup, le tournage a éclaté en plusieurs blocs, en fait, pour plusieurs raisons. A commencé le premier confinement, et oui. Et puis, et du coup, Adèle Exarchopoulos nous dit, et quand on tournait, on prenait beaucoup de temps, souvent sans être hyper productif. Mais paradoxalement, on était aussi beaucoup dans l'urgence. Se passer d'autorisation pour filmer, ne pas avoir de plan de travail, ne pas saisir à l'avance tout simplement tout ce qu'on avait à tourner, et avec qui, etc. Tout ça oblige à être pleinement dans le présent, dans l'urgence. C'est peut-être ce qui fait de ce film un excellent film. Alors, je rappelle que les compagnies low cost, ce sont des compagnies qui proposent des prix plus bas que la moyenne du marché. Voilà, et on les appelle donc les compagnies low cost. Ça marche très bien, bien sûr, parce que les gens maintenant voyagent quand même énormément. Hein. C'est plus comme il y a dans le temps où bon, il y avait 2-3 compagnies et basta. Non, donc ils choisissent quand même souvent les compagnies low cost, qui les prix sont quand même plus attractifs. Mais il faut quand même dire que le personnel n'est pas très bien payé sur les compagnies low cost et que donc c'est un travail fatigant et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. On peut dire ça comme ça. Bah oui, on ne peut pas tout avoir. Rien à foutre.
Rien à foutre donc d'Emmanuel Marre. Oui. Et maintenant, c'est un film de Clio Barnard que nous allons retrouver. Oui. Ça s'appelle Ali et Ava.
Ali et Ava. Et Ava, c'est une esperluette. Le signe esperluette.
C'est deux prénoms, Ali et Ava. Ouais. Et donc, c'est Ali et Ava.
Et Ava, voilà. Mais dans le titre, on n'a pas le « et ». On a juste le signe esperluette, là, oui. Ça s'appelle comme ça, c'est joli, hein, esperluette. C'est Clio Barnard, oui, elle est réalisatrice, scénariste, productrice déléguée, elle a 57 ans. Elle est anglo-bengali, au fait. Bengalais, on dit d'ailleurs. anglo-bengalais. Elle a 57 ans, 19 ans de carrière, 7 tournages à son actif. Il y a 4 longs métrages et 3 courts métrages. Elle a eu 4 prix, 11 nominations. Elle avait quand même, ah oui, oh là là, en 2010, à 41 ans, elle a réalisé le premier long métrage documentaire, son premier long métrage, The Arbor, consacré à Andrea Dunbar, qui est une dramaturge, très connue. Et ce documentaire a reçu de très nombreux prix. Très nombreux prix. Ça commençait très bien pour elle. Et puis en 2013, son deuxième long métrage, c'est Le géant égoïste, qui raconte la vie de deux ados qui sont exclus du collège. Pareil, elle a reçu un tas de prix pour ce deuxième documentaire. On va dire qu'elle est douée, hein, on peut dire ça comme ça. Et là, alors, ces 4 nominations à l'IAVA, 2 à la quinzaine des réalisateurs 2021. Mais c'est de la romance, c'est de la comédie dramatique, il y a du drame, il y a de la comédie tout court, c'est britannique, il y a de tout dans ce film. Ali et Ava n'avaient aucune raison de se rencontrer. Blessée par la vie, c'est leur affection commune pour Sophia, une jeune fille dont Ava est l'assistante scolaire, qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond, au-delà des différences sociales et culturelles. On a des acteurs britanniques essentiellement. On a Claire Rushbrook qui joue le rôle d'Ava. Et on a Adil Akhtar qui joue le rôle d'Ali, qui est également un acteur britannique. On a Elora Tortia. On a Sean Thomas dans les rôles principaux. Alors, le réalisateur nous dit, ça a sûrement l'air un peu léger, ce film. Je crois que le film parle de la gentillesse en tant qu'acte de courage. Ali aide Ava, et sa famille, il les aide à affronter, Ali aide tout le monde lui en fait, Ava et sa famille, il les aide à affronter la réalité et leur héritage de violence et de racisme, et ainsi il leur donne l'occasion d'avancer. Voilà ce que fait Ali. Oui, c'est pour ça, non, c'est pas un film léger, mais c'est un film qui, oui, c'est la gentillesse, voilà, en tant qu'acte de courage en fait. Très, très, très beau film qui est à voir. Ali et Ava. Si ce thème, mes chéris, vous fait envie, j'allais dire vous branche, oh mon Dieu, vous fait envie, ben allez le voir parce qu'il est très bien fait. Hein. Voilà, bon, c'est une très belle réalisation. 1h35.
Ali et Ava de Clio Barnard. Et maintenant, oui. C'est Anthony Hickling qui est à la réalisation du film Down in Paris.
Oui, Down in Paris. Alors moi, j'ai essayé de traduire parce que ça donne en bas à Paris. Je trouvais que la traduction était un peu... C'est un drame, c'est de la romance, c'est français, ça dure 1h40. Anthony Hickling. Alors, tu as vu, il faut s'arrêter après le Hickling. Hein, c'est Hickling. C'est un réalisateur, scénariste, acteur, directeur de la photographie, il est producteur également, franco-britannique. Il a 46 ans, il a 13 ans de carrière, 15 tournages, dont 5 longs métrages et les 10 autres tournages, c'est comme acteur, voilà, il les a joués, voilà, comme acteur. Donc il y a 5 longs métrages. 46 ans, c'est déjà pas si mal, à mon avis. Alors, il y a un avertissement, attention, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, c'est noté parce que c'est quand même important. Je pense. Hein. Alors, c'est l'histoire de Richard, cinéaste d'une quarantaine d'années, qui est gagné par une crise d'angoisse inexpliquée et qui lâche son tournage en cours et qui se livre à une déambulation dans un Paris nocturne à la recherche de réponses, de réconfort et d'inspiration. Au cours de cette nuit blanche, au hasard des rencontres, parfois chaleureuses, parfois inquiétantes, croisant des figures étrangères, des corps inconnus ou des visages familiers, Richard va affronter ses peurs et questionner ses désirs profonds, jusqu'au petit matin. Alors c'est Anthony Hickling, le réalisateur, qui joue le rôle de Richard. Sinon, ils sont tous connus en fait. Hein. Si on a l'habitude d'aller au cinéma... là, on les reconnaît tous. Il y a Jean-Christophe Bouvet, Dominique Fraud, la sœur de Catherine Fraud, qui est excellente également. On a Manuel Blanc, on a Geoffrey Couette dans les rôles principaux. C'est un beau film. C'est assez étrange, c'est intéressant. Il nous dit d'ailleurs, Anthony Gling, il nous dit « Je suis parisien, mais d'origine anglaise ». Et ça faisait un moment, en fait, que j'avais envie de montrer Paris à travers mon regard. Le tournage a eu lieu durant le deuxième confinement. C'était une expérience vraiment singulière. Nous avons eu parfois l'impression d'avoir la ville pour nous seuls. Oui, effectivement, pendant le premier confinement, je pense que les rues de Paris étaient quasiment désertes. C'est sûr, comme partout. Hein. Donc, ils ont eu Paris pour eux tout seuls et ils ont pu donc effectuer ce tournage « Down in Paris ».
Down in Paris, donc. Bon, oui. Et maintenant, ça va être Alain Guiraudy qui nous propose d'aller avec lui. Viens, je t'emmène.
Oui. Pardon, tu disais, Damien, répète-moi le titre, je te prie.
Viens, je t'emmène.
Ah. Bon, bah écoute, oui, enfin, bon. Oh ben non, moi j'ai prévu des choses aujourd'hui, je suis désolée, je peux pas.
Mais c'est une chanson de France Gall.
Ah,
et c'est également un film.
Viens, je t'emmène. Nanana. Je peux pas chanter, j'ai la voix... abîmé. Oh zut. Mais non, mais je plaisante. Tu as raison. Oui, c'est une chanson de France Gall. La regrettée France Gall, oui. Alors, ça dure 1h40. C'est une comédie française. Il y a une nomination à la Berlinale 2022, Panorama Film d'ouverture. Alain Guiraudy, eh oui, qui nous revient, réalisateur, scénariste, acteur français, il a 57 ans, 30 ans de carrière, 16 tournages à son actif, un prix et 29 nominations. Il avait eu un prix au Festival de Cannes en 2013 pour L'inconnu du lac, avec Pierre Deladonchamp et Christophe Paou. C'était deux hommes qui se rencontrent pendant quelques heures et qui tombent amoureux. Ce film avait été vraiment très, très bien reçu, L'inconnu du lac. Il faut dire que Pierre Deladonchamp, c'est un acteur qu'on aime beaucoup quand même, hein, qui a beaucoup de talent aussi, et Christophe Paou également. Mais le casting était sympathique. Alors viens, je t'emmène à Clermont-Ferrand. Médéric tombe amoureux d'Isadora, une prostituée de 50 ans. Mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d'attaque terroriste, enfin d'une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri, se réfugie dans l'immeuble de Médéric, provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Selim et son désir de vivre une liaison. Alors on a dans le rôle d'Isadora, on a une actrice formidable qu'on connaît tout à fait, Noémie Lvovsky. Ah, elle est formidable, cette actrice, vraiment, quoi. C'est également une réalisatrice, hein, qui a eu beaucoup de chance, d'ailleurs, dans sa carrière de réalisatrice. C'est très bien passé. On a Jean-Charles Cliché, qui joue Médéric. On a Lies Kadri, qui joue le rôle de Selim, le SDF. On a Doria Tillier, on a Renaud Rutien, on a Farida. Ah oui, Farida Rawadi. J'avais parlé d'elle une fois parce qu'elle fait partie des acteurs secondaires, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des rôles secondaires, mais dont on se souvient. C'est très curieux, ça, d'ailleurs, ce phénomène. Et chaque fois qu'elle est apparue dans un film, elle est remarquée. Donc, elle continue à travailler. Elle ne s'est quasiment jamais arrêtée. Farida Rawadi. Mais on la reconnaît. Hein, on la reconnaît quand on la voit. On sait qu'on l'a vue dans un tas de films. Et elle est excellente. J'en profite pour le dire, justement. Et après, en fait, le Alain Guiraudy, il a surtout réalisé, enfin, surtout deux films extrêmement sombres. Il avait envie de revenir un peu à la comédie. Voilà, c'est un peu ce qui l'a amené là. Viens, je t'emmène, se déroule à Clermont-Ferrand, hein, puisqu'on le dit dès le début, là, ça se passe à Clermont-Ferrand. Et Alain Guiraudy, quand il parle de Clermont-Ferrand, dit que c'est une ville noire et chaleureuse. Elle représente à ses yeux une France profonde et historique. Il nous dit que visuellement, outre sa noirceur, la ville offre des perspectives sur les plateaux et les montagnes des alentours. C'est une ville à la campagne. C'est chouette, ça, de dire ça, une ville à la campagne. Et oui. Alors voilà, ça se passe aujourd'hui parce que le réalisateur voulait que ça se passe justement aujourd'hui. Et dans une ville, ça se voit. Parce qu'il nous dit qu'il y a une ville avec ses enseignes, ses voitures, ses affiches. Ça ancre toujours un film dans une période plus précise, évidemment. Quand dans un film, quand on ne sait pas à quelle époque ça s'est passé, il suffit de regarder les vêtements des gens, les voitures. Il suffit de regarder tout ça et on sait à peu près à quelle époque on se trouve. Ben lui, il voulait que ce soit justement au jour d'aujourd'hui. Donc il y a pas de, ce n'est donc pas un film en costume, on est bien d'accord. Ça, quoi. Alors, il estime, ce réalisateur, que l'on vit depuis plusieurs années dans un état d'inquiétude vis-à-vis des attentats. Et il y a peu de films qui se sont emparés de ce sujet. Alors, dans Viens, je t'emmène, le héros observe l'attentat qui se déroule à quelques mètres de chez lui sur un écran de télévision. D'un point de vue cinématographique, nous dit le réalisateur, ça crée une mise en abîme. C'est un écran dans l'écran. Il y a plusieurs niveaux de fiction entre ce que Médéric voit de ses yeux et ce qu'il voit à la télévision. Ces attaques terroristes sont conçues comme telles. Elles exploitent les réseaux sociaux, elles jouent sur la perception de l'autre pour fracturer les liens. Le terrorisme est un combat médiatique, il perturbe la perception de l'autre. Donc c'est, je trouve, un film intéressant. Mais alors attention, hein, je l'ai bien dit au début, hein, que pour les spectateurs sensibles, bon, peut-être s'abstenir ou sachant qu'il y a des scènes un peu difficiles, y aller quand même. Hein. Bon, Viens, je t'emmène.
Et on écoute la bande-annonce de Viens, je t'emmène.
Alain Giroudy fait un beau film, là.
Pourquoi faudrait que je le fasse gratuit avec toi ?
Parce que je suis contre la prostitution, puis vous me plaisez trop. Ça vous arrive de faire l'amour en dehors du travail, non ?
J'aime bien ma mari.
Vous le trompez jamais ?
Non. Bonsoir, monsieur. Vous pourriez pas me dépanner de 5 euros pour un sandwich ?
Faut pas courir comme ça derrière les gens. Surtout un soir d'attentat.
C'est parce que je suis arabe que vous dites ça ?
Faut pas le faire entrer, le jeune en bas.
Mais c'est pas moi qui l'ai fait entrer.
Merci, vous me sauvez la vie.
Je peux utiliser vos WC ?
Mais je pourrais pas prendre une douche. Je peux utiliser votre ordi le temps de sécher.
Mais on va quand même pas garder ce jeune dans l'immeuble tout le temps.
Oui, bonjour monsieur. Je me demande si le troisième terroriste serait pas chez moi. Ça fait quoi comme épaisseur et une ceinture d'explosifs ?
On fait rien, on attend de voir. Ça c'est bien la France. Hein.
Je viens voir Isadora.
Chambre 205.
Ça fait 30 ans qu'on est ensemble avec Isadora. C'est pas un mec comme toi qui va nous séparer.
Je monte juste prendre un verre et...
Non, mais j'ai ma copine qui dort.
Bonsoir.
Bonsoir, madame. Oui, bah, Isadora, Selim.
Ça s'est bien passé cette nuit avec le jeune ? Il est toujours chez vous ?
Oui, je pense, oui.
Viens, je t'emmène d'Alain Giraudy.
Bah, on peut dire qu'Alain Giraudy, là, il a choisi aussi de s'intéresser à un autre paria de la société, c'est-à-dire une prostituée.
C'est ça.
Puisqu'il y a Isadora.
Voilà.
C'est un film complet.
Et après, c'est Viens, je t'emmène, c'est Les meilleurs au féminin, au pluriel, de Marion Dessaigne-Ravel.
Oui, drame, roman, c'est français, ça dure 1h21. Marion Dessaigne-Ravel, oui, réalisatrice, scénariste française. C'est son premier long-métrage après plusieurs courts-métrages. Les meilleurs. Il y a un prix et une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême 2021, premier rendez-vous. Et elle a reçu le prix Fondation Gannes pour le cinéma 2019. Marion Dessaigne-Ravel. Alors, sur un mur de mon quartier, ça c'est le synopsis, on a tagué « Le premier qui tombe amoureux a perdu ». C'est vrai, parce qu'après, tout le monde parle sur toi, et t'es à la merci d'un, voilà, de tout le monde. J'ai perdu, je suis amoureuse d'une fille, je ne sais pas quoi faire. Point de suspension. C'est un synopsis extrêmement amusant d'ailleurs. Beaucoup d'humour. Alors, dans les rôles principaux, on a Lina El Arabi, on a Esther Bernet-Roland, on a Maya Zrouki, on a Kijan Benamara. C'est un casting sympathique, en fait. Hein. Et En fait, lorsqu'elle est arrivée à Paris, cette réalisatrice-là, elle devait faire la FEMIS. La FEMIS, c'est l'École nationale supérieure des métiers, de l'image et du son. Donc, elle a trouvé un appartement dans le quartier de la Goutte d'Or, c'est le 18e arrondissement, et en bas de chez elle se trouvait une association qui faisait du soutien scolaire, et elle a tout de suite eu envie de rencontrer ses membres. « Je me suis retrouvée bénévole, dit-elle, pour l'aide aux devoirs, et certains samedis, nous tournions des petits courts-métrages dans le cadre d'un atelier cinéma. C'était l'époque du mariage pour tous. On en parlait partout, et les manifestants anti-mariage avaient eu cette drôle d'idée de venir tracter à Barbès pendant que les musulmans du quartier allaient rejoindre les catholiques du 16e arrondissement. » Ça n'a pas marché, mais les adolescents de l'association ont débarqué un jour avec des tracts très virulents. Ils m'ont prise à partie sur la question de l'homosexualité. Et comme j'étais en couple avec une femme, je leur ai dit « Bah voilà, je suis en couple, j'ai une amie. » Ça a ouvert un espace de dialogue entre nous. Leurs questions m'ont secouée et bouleversée. Et tout cela a fait naître l'idée du film « Les meilleurs ». Elle explique tout pour en arriver là, parce que c'est intéressant, effectivement, la façon dont elle est arrivée à réaliser ce... Pourquoi et comment elle a pu réaliser ce film. Donc, dans le film Les Meilleurs, il y a la question du partage du territoire. C'est central, même, dans le film. Alors oui, pour le titre, signification du titre, alors elle nous dit « c'était un tic de langage des adolescents avec lesquels j'ai travaillé. Elle s'appelait toujours comme ça, les meilleurs, ma meilleure. » Voilà, les dialogues ont changé au cours du tournage et cette expression ne figure plus dans le film, mais j'ai eu envie de le garder en titre. J'avais envie d'un titre lumineux qui porte en lui une note d'espoir. Voilà un joli film à voir quand même. Si ce thème vous intéresse, mes chéris, c'est à voir. Marion Desaigne-Ravel.
Les meilleurs. Et maintenant, nous allons retrouver Claude Chamis qui nous emmène Porte de Vincennes.
Oui, Porte de Vincennes, c'est un drame français d'1h20. Claude Chamis, c'est un réalisateur, oui, scénariste, metteur en scène. Et il est français, c'est son deuxième long-métrage. Le premier, c'était en 2018, ça s'appelait « La balade d'Ivan ». C'était l'histoire d'un jeune vagabond russe qui est rejeté par les siens et qui, très démuni, commet l'irréparable après sa rencontre avec un homme père de famille. Il y avait Franck Zerbib dans le rôle principal, j'en parle parce qu'on le retrouve dans « Porte de Vincennes », Franck Zerbib. C'est pour ça que je le cite pour le film de 2018. Alors, Claude Chamis travaille également sur ce film avec le producteur scénariste français Sylvain Maugean, qui est, ça tombait bien justement qu'ils se rencontrent et que ça marche entre eux, parce que ça valait la peine pour la production surtout. Après le choc de l'attentat de l'hypercachère en 2015, Raphaël Mellmann, un jeune juif parisien, va reconsidérer sa vie et sa foi religieuse. Son frère, l'écrivain Joël Mellmann, développe un roman, puis se perd entre ses personnages et la réalité, mêlant ainsi sa fiction et sa propre vie. Alors on a Laura Kettels, Pablo Alarson, Franck Zerbib, que j'ai cité pour 2018, là, Arthur Molinier, Héloïse Luzzatti, Christine Nieto, dans les rôles principaux. Et le réalisateur nous dit que Porte de Vincennes ne traite pas directement des attentats qui ont frappé Paris en 2015, mais il en parle de manière transversale pour revenir à l'essentiel, l'être humain pris dans sa complexité. Nous n'avons porté aucun jugement de quelque ordre que ce soit sur ces événements tragiques. Notre désir était de montrer l'onde de choc provoquée par le terrorisme au sein d'une petite communauté de jeunes juifs. Si le film évoque le terrorisme, il entend le dépasser, le transcender, pour nous parler de la question de l'identité. Voilà ce que dit le réalisateur de ce film, Porte de Vincennes.
Et maintenant, pour terminer les films de fiction, c'est un film attendu cette semaine et en ce début d'année, film de Matt Reeves, The Batman.
Et oui,
c'est un nouvel épisode de Batman. Alors.
Je ris parce que je m'étais trompée de date. Je l'avais mis en février. Et puis, ça avait été repoussé au 2 mars. Et voilà. Et donc, j'avais lu le synopsis. Je me souviens, tu t'en souviens? Et puis du coup, ben non, c'était une erreur de date. Donc là, ça dure 2h55. Bon, bah, d'accord, c'est de l'action, c'est du polar, c'est du drame, c'est américain. Ouh, The Batman, on le connaît, cet homme-là. Alors, pendant 2 années, il arpente les rues en tant que Batman. Et c'est Robert Pattinson, je donne son nom tout de suite pour qu'on comprenne un peu qui va être ce Batman quand même. Là, c'est très différent de tous les Batman qu'on a connus. Robert Pattinson quand même, pendant 2 années il arpente les rues et il insuffle la peur chez les criminels qui ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Eh oui, cette fameuse ville épouvantable, Gotham City, on n'a pas envie d'aller louer un studio là-bas, c'est sûr. Avec seulement quelques alliés de confiance. Alors il a Alfred Pennyworth qui est joué par Andy Serkis. Voilà, donner les noms maintenant. Le commissaire James Gordon, qui est joué par Jeffrey Wright. Parmi le réseau de corruption de la ville, composé de responsables et de personnalités de premier plan, le justicier solitaire s'est établi comme l'unique incarnation de la vengeance auprès de ses concitoyens. Quand un tueur vise l'élite de Gotham, avec une série de rencontres, une série de machinations, il y a des rencontres mais des machinations sadiques, une piste d'indices énigmatiques lance le plus grand détective du monde dans une enquête dans le milieu de la pègre, où justement là il rencontre des personnages comme Selina Kyle, Catwoman, qui est jouée par Zoé Kravitz. Et puis, il rencontre Oswald Cobblepot, le pingouin, qui est joué par Colin Farrell. Eh ben oui, il rencontre également Carmine Falcone, John Turturro, et puis Edward Nashton aussi, le Riddler, qui est joué par Paul Dano. Le Riddler, ça veut dire le devin, hein, Paul Dano. Alors que les épreuves s'accumulent et que l'ampleur des plans du malfaiteur devient clair, hein, une ampleur extraordinaire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un peu de justice au milieu de l'abus de pouvoir et de corruption qui tourmente Gotham City depuis longtemps. Moi, j'aurais dit depuis toujours, Gotham City, ah là là. Et oui, alors notre héros va devoir affronter l'un de ses ennemis jurés parmi d'autres, c'est-à-dire que joué par Paul Dano, le Sphinx, le devin, là. Alors, le réalisateur, on l'appelle Matt Reeves. C'est un réalisateur, scénariste, producteur. Il est producteur délégué également américain, 55 ans, 28 ans de carrière, 41 tournages. Il a eu pas mal de nominations quand même, 7 ou 8. Et alors, on lui doit en 2008 pour situer un peu Cloverfield, qui est un film de science-fiction, un thriller avec un peu d'épouvante quand même, qui a eu 2 nominations, qui vraiment a fait un carton aux États-Unis. Ça, c'est sûr. C'était un mélange de Godzilla, d'Alien et d'Independence Day, quoi. C'était un petit peu un mélange comme ça. C'est un film catastrophe, hein. Et il y avait Lizzie Kaplan dans les rôles principaux et Michael Stahl-David. Il a très bien marché, le Cloverfield. Et puis en 2010, c'était Laisse-moi entrer. Alors, c'est du drame, de l'épouvante, vampire également, qui a cartonné là-bas aussi, avec Chloé Grace Moretz, Cody Smith McPhee, et qui a eu 4 nominations là-bas aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est quand même. Ça marche bien. Alors, on a retenu, hein, Robert Pattinson. Tu vois qui c'est, Damien? Tout le monde voit qui c'est.
Je vois qui c'est, ouais, dans Twilight.
Ah, voilà, les Twilight. Ah, le beau gosse des Twilight. Enfin, il était un peu pâle. Mais bon, il était quand même beau gosse. On a donc Paul Dano, Colin Farrell, bah oui. Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, James Lawson, voilà, dans les rôles principaux. D'excellents acteurs pour ce genre de cinéma, hein, de toute façon. Franchement. Là, donc c'est, voilà, oui, Robert Pattinson, il a effectué des essais avec la tenue de George Clooney dans Batman, hein, et Robin. Eh oui, à noter que Christian Bale et Cillian Murphy, qui finalement a hérité du rôle de l'épouvantail, avaient fait des essais pour Batman Begins, dans le costume que portait Val Kilmer dans Batman Forever. Là, là, il y a des soucis de costume. Bah, après, au départ, c'était Ben Affleck hein, qui devait réaliser le film. Alors bon, après son départ, bah, y a eu Denis Villeneuve qui avait été pressenti quand même, George Miller, Ridley Scott, s'il vous plaît. Bon, Matt Ross. Bon, ben, finalement, c'est Matt Reeves qui a réussi son pari. Il a The Batman, je pense que ça va marcher de toute façon, parce qu'il y a énormément de spectateurs qui adorent ce personnage et qui vont se précipiter pour voir le nouveau, le dernier. Surtout justement avec Robert Pattinson, parce que je pense que tous les ados qui l'ont beaucoup aimé dans Twilight ne l'ont pas oublié. Maintenant, ils sont un peu plus âgés, mais ils vont pouvoir se régaler et le regarder dans The Batman.
Et maintenant, après la fiction, ce sont les documentaires que tu nous proposes, notamment avec ce documentaire qui s'appelle Combinat.
Oui, Combinat, documentaire suisse qui dure 1h15 de Gabriel Tejedor, qui est un réalisateur suisse. Alors, un combinat, on va le dire tout de suite, ça désigne, dans le bloc soviétique, un complexe industriel au sein duquel des entreprises d'un même domaine hein, de production coopèrent pour obtenir de meilleurs rendements. On saisit un petit peu là, hein. Combinat. Ville industrielle au cœur de la Russie, Magnitogorsk, c'est le nom de la ville, hein. Magnitogorsk, vit à l'ombre des cheminées rouillées de son immense combinat. Léna, jeune mère, fille de métallurgiste, enseigne la salsa, une des nombreuses activités organisées par le combinat. Eh oui, il y a énormément d'activités, effectivement. Il y en a, et il y a, entre autres, l'enseignement de la salsa. Sacha y trouve un moyen d'oublier la pression quotidienne de l'usine. Son frère Genia et sa femme ont, eux, décidé de quitter la ville et sa pollution permanente, cause du retard mental de leur fille. Très joli documentaire. Essayez de le choper, mais sinon on attend le DVD qui va sortir assez rapidement, hein. Combinat. Et puis, l'autre...
Et un dernier pour nous parler d'un film dont on écoute la bande-annonce.
Oui, merci.
Sometimes I wonder if I'm doing it bad. I roll over, she with me. I'm all alone in my bed. Talking to the voices in my head. Baby, she gone. She gone.
Il y a eu plein de maisons démolies hein, ici quand je suis monté. De la cave, si vous voyez le jour, il y a trois étages. Tout était dans la cave, quoi. Il n'y avait que les murs.
Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Nous prévoirons un régime spécifique, répondant au caractère exceptionnel.
Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes?
Qu'est-ce que je raconte de beau?
T'as tellement d'histoires à raconter.
Ça s'appelle Là-haut perché. Alors, de quoi nous parle ce documentaire?
Oui, Là-haut perché, c'est de Raphaël Mathier, qui est un réalisateur, scénariste, acteur français. Eh bien, ça nous parle, c'est un documentaire qui dure quand même 1h47. Ça nous parle de ces perchés dans un hameau des Alpes de Haute-Provence. Mick, Coco, Christiane, François et les autres résistent comme ils peuvent, au temps qui passe, à la solitude et aux infortunes de la vie. Quand une vieille histoire de météorite refait surface. Alors ça se trouve, ça s'est tourné au village de Chasteuil. Alors le village de Chasteuil a été rattaché à la commune de Castellane, C'était en 1973, quelque chose comme ça, qui est plus, bon, elle est connue, la commune de Castellane est beaucoup plus connue que le village de Chasteuil, parce que, par exemple, en 1968, là, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres récents, à Chasteuil, il y avait 13 habitants. Donc, alors, ça n'a guère augmenté, bien entendu. Et je trouvais que c'était très, très chouette, ce documentaire. Pareil, hein, si on ne le chope pas, là, on l'aura en DVD rapidement. Il est cadreur aussi, Raphaël Mathier.
Et ça s'appelle Là-haut perché. Là-haut perché. Voilà pour les films de la semaine. Donc, oui. Je rappelle aux auditeurs que vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le www.r2m.com ainsi que de nombreuses émissions et donc de nombreuses présentations de films.
Ah oui, absolument. Et alors, on rappelle que Illusion perdue a gagné le gros lot. Ils ont eu 10 Césars, si je m'abuse. Eh bien oui. C'est le film vainqueur des Césars 2022, 47e édition. Il faut bien aussi un peu essayer de s'évader, mes chéris. Allez au cinéma quand même, ça vous fera du bien. De toute façon, en ce moment, on a intérêt à se vider la tête un maximum de temps en temps. C'est le seul moyen de se sortir de tout ce qui se passe là, pendant une heure et demie, deux heures. Ça fait du bien. Il y a des films plus longs. Mais voilà, ça fait du bien. Moi, je vous dis, hein, essayez quand même. Hein. C'est le cinéma, c'est utile aussi dans ces moments-là, justement. Très utile. Voilà, en tout cas.
Très bien. Eh bien, bonne semaine à toi.
On se quitte, oui. Eh ben oui. Bonne semaine aussi à toi, Damien. Merci, merci pour tout. Mais t'avais dit, comment c'est ? Viens, je t'emmène. Ben non, c'était juste le titre du film, finalement. C'est tu ça. Comptais pas m'emmener en balade ?
Ah non, oh, c'était pas prévu. Oh, ben, mais allez, viens, je t'emmène après l'émission.
en montagne, je veux aller respirer l'air. Non, je vais aller au cinéma. Emmène-moi au cinéma, s'il te plaît.
Voir là-haut perché.
N'est-ce pas ? Voir là-haut perché.
Comme ça, on est à la montagne et au cinéma.
Tout à fait, avec Christiane et François et les autres. Bon, mais mes chéris, en tout cas, passez une excellente semaine, s'il vous plaît, quand même. Essayez d'être heureux. Il faut bien, parce que ça aide à tenir le coup quand on essaie d'être heureux, absolument. Puis la journée qui passe, hein, le carpe diem, c'est pas rien à foutre, hein, c'est le contraire. Hein. C'est bien profiter de la journée avec tout le monde, quoi. Voilà, ou tout seul, si vous êtes tout seul, hein, mais bien profiter de la journée, du matin au soir quand même. Et puis, surtout, moi, je serais ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Aux yeux, tu sais.